Le téléphone sonne, spécial Europe, Stéphane Le Neuf à Strasbourg.
France Inter, le 18-20.
Bonsoir, manifestations, grève dans les transports, affrontements verbaux, violences physiques. La France traîne en Europe cette réputation de pays ingouvernable, incapable de se réformer. Un pays incapable de sortir d'une culture historique du conflit social dès lors qu'un gouvernement, peu importe d'ailleurs son étiquette politique, souhaite entamer des réformes. Ce pays meurt parfois de ses conservatismes, de son impossibilité à se réformer, disait encore il y a quelques jours Manuel Valls. Ceci après 3 mois de bagarre pour imposer sa réforme du Code du travail. Pourtant, si on regarde les statistiques, ces violentes éruptions sociales au plan national cachent en fait une diminution des conflits en entreprise. 40 000 accords ont été signés dans les entreprises ces dernières années, dont 85% signés par la CGT elle-même. En tout cas, les regards que nos voisins européens portent sur notre pays sont extrêmement sévères. Question ce soir, sommes-nous les seuls à concevoir les rapports sociaux dans l'affrontement et dans la violence? Comment font nos voisins européens pour gérer leur crise sociale? Quelles sont leurs recettes? Faut-il s'en inspirer? Le dialogue social fonctionne-t-il mieux, réellement mieux ailleurs en Europe? J'attends vos questions et vos témoignages au 01 45 24 7000.
Le téléphone sonne, Europe. Stéphane Le Neuf.
Et au standard de France Inter, nous avons Yannick qui nous appelle de Reims. Bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Allô. On vous écoute Yannick. Oui, on vous écoute Yannick.
Oui, donc j'avais un témoignage à apporter, une question bien sûr. Alors que je suis délégué syndical au sein de l'entreprise et effectivement les rapports sociaux sont compliqués. Toutefois, je note que ce qui se passe en France aujourd'hui se passe aussi dans les autres pays européens quand les mouvements durcissent et surtout quand il y a un manque de dialogue. Donc je pense que ce qui se passe en France est avant tout un manque de dialogue entre les partenaires sociaux, l'État, les patrons. Et ma question, est-ce que si on veut faire évoluer le dialogue social en France et le travail entre les différents partenaires, est-ce qu'il ne faudrait pas que les accords d'entreprise puissent s'appliquer aux personnes qui sont syndiquées, puisqu'on a un manque cruel de syndicalisme, ce qui pousse les syndicats, je dirais, à amener des actions et à se positionner de manière très très forte. Est-ce qu'une des solutions n'est pas que enfin les accords ne s'appliquent qu'aux personnes qui appartiennent, qui donc ont adhéré au syndicat?
Merci Yannick de votre appel, de votre question. Pour répondre ce soir à tous nos auditeurs, à Yannick, donc Mercedes Bresso, bonsoir madame.
Bonsoir.
Députée italienne du groupe de l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates, Enrique Calvé-Chambon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes députée espagnole du groupe Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe. Et Claude Rollin, bonsoir.
Bonsoir.
Députée belge du groupe du Parti populaire européen. Yannick pose d'entrée de jeu la question, les accords d'entreprise peuvent-ils s'appliquer différemment? Peuvent-ils s'appliquer simplement aux gens syndiqués?
Pour moi, non. Non, clairement non, parce que je pense que ça créerait simplement des discriminations entre travailleurs salariés. Donc c'est une mauvaise chose. Par contre, Yannick, je trouve, amène une question importante qui est celle de la représentativité des organisations syndicales, c'est-à-dire du nombre d'adhérents, d'affiliés que peuvent avoir les organisations syndicales, notamment dans mon pays, qui est un pays, la Belgique, avec un haut niveau, un pays d'11 000, 11 millions d'habitants, il y a 3 500 000 affiliés aux organisations syndicales.
C'est un taux de syndicalisation énorme, on peut le dire, par rapport à la France.
C'est un niveau important, maintenant, avec une autre forme de syndicalisme, qui est notamment un syndicalisme très branché sur le service. Mais un des éléments qui existe, et je sais que ça fait partie du débat français, c'est ce qu'on appelle en France, je pense, le chèque syndical. C'est-à-dire que les travailleurs salariés qui sont affiliés à une organisation syndicale, dans certaines branches, peuvent recevoir une indemnité qui compense partiellement le montant de la cotisation qu'ils payent à leur organisation syndicale. Ce qui permet d'élever le niveau d'affiliation syndicale.
Madame Bresson.
Moi aussi, je pense que ce ne serait pas une bonne idée, le principe de pouvoir étendre l'accord à tous les salariés est important, mais c'est évident que la représentativité des syndicats doit être réelle et vérifiée, mais à part ça, non, je ne pense pas que ce serait une bonne idée.
En Italie, quel est le taux de représentativité des syndicats?
Il est en baisse, il a été très fort dans le passé, il est en baisse surtout dans le secteur privé, donc c'est encore relativement fort dans le secteur public, fort dans les retraités, parce que les syndicats fournissent des services très importants aux retraités, c'est très fortement en baisse, maintenant c'est autour de 10-15%, pas plus.
Monsieur Calvé-Chambon.
Oui, alors moi je peux parler de l'expérience espagnole qui est un petit peu, qui est un petit peu différente parce que nous sommes venus, comme vous savez, après le franquisme au syndicat libre. Et ils ont joué un rôle et continuent à jouer un rôle surtout très institutionnel pour d'abord installer la démocratie et après être vraiment un dialogue social qui se fait en cascade mais en commençant au plus haut niveau. Alors, en Espagne, ce serait impensable que ce qu'accordent les syndicats ne soit pas général. Au contraire, la loi prévoit que c'est absolument obligatoire que ce soit appliqué à tout le monde. Ouais. Sinon, d'ailleurs, je me demande qu'est-ce qu'on ferait, qu'est-ce qu'on ferait avec les gens qui ne sont pas syndiqués. C'est une espèce de chantage à la syndication. Alors, qu'est-ce qui arrive en Espagne sur la représentativité? Elle est très, très, très basse, comme en Italie, peut-être plus 10-15%. Il y a deux grands syndicats très institutionnels. Mais ce qui est vrai, c'est qu'aux élections syndicales participe une énorme quantité, peut-être le 85-90%, c'est-à-dire beaucoup plus que dans des élections politiques. Par conséquent, là, il n'y a pas de syndicalisation. Là, l'espagnol est peut-être trop commode, ben, il vient du paternalisme franquiste, etc. Et il laisse que les autres fassent le second. Mais il vote, et c'est-à-dire il est représenté. Là, il n'est pas syndiqué, mais il est représenté. Mais même en Espagne, je ne sais pas, quand on fait des accords provinciaux, ce qui est très fréquent, immédiatement, et c'est un des secrets du fonctionnement du marché du travail en Espagne, immédiatement applicable à tout le monde, hein, du moment que c'est signé par des syndicats qui ont été votés.
Pour bien poser le débat, j'aimerais avoir chacun d'entre vous le regard que porte aujourd'hui dans votre pays. Quel regard porte-t-on aujourd'hui sur cette crise en France, cette crise sociale, cette difficulté qu'on a en France, finalement, à sortir de cette culture historique du conflit social, Madame Brézoli?
Écoutez, nous, on a vécu la situation tout à fait semblable.
Avec le Job Act.
Avec le Job Act, ça a été très dur, le débat, aussi parce que, évidemment, on est en train de passer, disons, d'une forme différente. Avant, on avait surtout une défense des droits des travailleurs à l'intérieur de l'entreprise avec les accords et les contrats des syndicats. Maintenant, on tend à déplacer un peu, pour rendre plus flexible le marché du travail, un peu à déplacer sur l'État. Donc les garanties sont données d'une façon plus générale et sont moins liées aux accords. Et par contre, on flexibilise un peu le contrat de travail et on va vers la flex security. Ça, évidemment, ça crée un grand conflit social quand on en discute. En réalité, après, dans l'application, nous, après un conflit absolument semblable à celui français, maintenant, on ne voit plus...
Une fois que la loi est votée, c'est terminé.
C'est terminé et finalement, ça marche plutôt bien et ça a augmenté énormément les contrats à temps indéterminé qui sont quand même une base fondamentale pour rendre meilleure la qualité du travail pour les gens.
Monsieur Rollin, en ce moment, en Belgique, il y a aussi des gros conflits sociaux, mais quel regard on porte sur la France aujourd'hui, sur ce qui se passe en France, sur la situation française?
Et donc on est en Belgique dans une situation un peu particulière parce qu'on est un pays historiquement de concertation sociale très très forte et à tous les niveaux, tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau de l'État interprofessionnel ou des branches. Mais le regard qu'on peut avoir et que j'ai en tous les cas sur ce qui se passe en France, qui est une situation quand même de blocage, j'ai deux éléments de réflexion. Un premier qui me paraît être un problème de méthode que nous connaissons aujourd'hui aussi en Belgique, avec un gouvernement qui manifestement a du mal d'entrer dans un processus de concertation, non pas de consultation, il y a une grosse différence, de concertation, c'est-à-dire où les acteurs sont alentour de la table avec des points de vue différents, mais dont ils sortent avec un point de vue commun, c'est-à-dire avec une solution qui est commune. Et je pense qu'effectivement, quand j'ai entendu...
C'est-à-dire le gouvernement, vous reprochez au gouvernement de ne pas jouer un petit peu ce rôle d'arbitre et de force de proposition pour mettre tout le monde d'accord.
Oui, et quand on menace dans un processus de négociation, comme gouvernement, comme politique, de prendre une décision avant même que cette négociation a pu donner ses résultats, je pense que c'est
grosse
quelque chose de problématique.
Grosse maladresse politique, donc.
Oui. Mais le deuxième élément, et je pense que c'est intéressant même d'un point de vue européen, c'est qu'en France, j'ai le sentiment, en tous les cas, de voir un débat aussi sur la forme de syndicalisme. Ce que vous appelez un syndicalisme de contestation ou un syndicalisme de type réformiste, je pense qu'il y a là quelque chose d'essentiel. Comment pouvons-nous avancer dans les évolutions nécessaires dans une société? Je pense qu'effectivement, il y a un rôle d'un syndicalisme que j'appellerais de construction, qui fait des propositions et qui permet justement de sortir des impasses.
Vous qui avez été, avant d'être député européen, à la tête du plus grand syndicat belge, hein, c'est l'équivalent de notre CFDT, de notre CGT à nous, quel rapport vous aviez avec le monde patronal, avec ce que vous aviez en face, c'est-à-dire les leaders patronaux? En France, c'est aussi compliqué côté patronal. Quand on a le leader du MEDEF qui traite la CGT terroriste, on va quand même très très loin.
Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible et qui n'est pas possible en Belgique. Il y a un très grand respect entre les personnes, tant du banc patronal que du banc syndical. On sait très bien que nous avons des rôles différents, des positions différentes, qu'on peut être en opposition très très forte, mais il y a un respect. Et pour moi, le maître mot de la concertation sociale, c'est confiance. Quand les acteurs se font confiance, quand ils se respectent, quand ils savent le poids et la valeur de la parole donnée dans un processus de négociation, c'est indispensable, eh bien le processus peut fonctionner. Si on n'a pas la confiance, la concertation sociale n'est pas possible.
Monsieur Calvet-Chambon, et on retournera au standard avec Daniel, qui nous appelle de l'Isère.
Oui, non, alors moi, quand vous avez dit que le syndicat de Claude, de M. Rollin, c'est comme vous avez dit, comme la CFDT, la CGT, c'est nous.
En termes de représentation,
parce que sinon, c'est la nuit et le jour. C'est-à-dire, je vais me permettre d'avoir un petit peu de franc-parler dans le respect, bien entendu, puisque finalement, j'ai quand même fait la première grève générale de la transition en Espagne, qui a été un grand succès. Et je l'ai fait par l'UGT, j'étais le chef du cabinet économique de l'UGT, et qui est le syndicat socialiste en Espagne, et contre le gouvernement de
l'UGT,
M. Felipe González.
L'UGT, pour faire une petite comparaison, c'est quoi? C'est l'équivalence de notre CFDT ici?
Voilà, c'est ça, c'est très près de la CFDT. Et alors, mais surtout aussi, je vais avoir un certain franc-parler, parce que finalement, ce que vous avez en France, c'est beaucoup une dispute entre Espagnols. C'est-à-dire entre M. Valls et M. Martinez. Alors quand même, là, je peux être...
C'est un très bon point de vue européen, je n'y avais pas pensé.
Alors là, je peux vous dire que...
Entre un catalan et un castillan, non, allons-y.
Oui, M. Valls est très catalan, parce qu'il est né à Barcelone. Bon, alors là, je crois que la gronde qu'il y a en France, l'affrontement, les échauffourées qu'il y a ont une profondeur idéologique que l'on ne trouve pas dans le syndicalisme belge et que l'on ne trouverait pas même à ce moment-là, quand on a fait la grève générale, il y en a deux ou trois après, que l'on ne trouverait pas en Espagne. Je pense que il y a un syndicat français qui est très particulier dans le panorama européen. Et qui est très porté sur établir avant des relations des forces, avant de s'arrêter.
Parler de la CGT, vouloir, là.
Je parle c'est surtout au niveau institutionnel. Parce que, comme vous avez dit, après, au niveau d'entreprise, où ils sont très bons d'ailleurs, tout le monde respecte.
Oui, 85% des accords signés en entreprise
sont là. Parce que là, ils vont sur le terrain, ils ne font pas de politique. Ils vont sur le terrain pour protéger les travailleurs. Mais les coupes, et ça arrive aussi dans mon pays, maintenant, ils ne sont pas aussi vers l'affrontement dans mon pays. Ils ont été institutionnellement, constructifs. Mais pour le rapport de force, le syndicat de la CGT a toujours été, le bras de fer. De nos jours, ça fait un peu vieilleux, mais très destructif, à mon avis.
On retourne au standard avec Daniel, qui est en Isère. On vous écoute, Daniel. Bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, j'ai écouté vos invités, c'est très intéressant. Et ben, moi, je pensais à une autre solution, hormis le fait que je retiens fortement la solution des Belges, justement pour inciter les gens à se syndiquer, parce que chez nous, c'est le gros problème, c'est que dans les gens qui ont les salaires les plus faibles, ben, quand il faut sortir même 130 euros par an, c'est encore beaucoup, c'est pas vraiment évident. Et donc, autre chose que je voulais aborder, est-ce que pour anticiper les problèmes, il ne faudrait pas passer justement un peu comme font les Suisses par la voie de la votation, la voie référendaire, pour dire de faire avancer les choses et non pas faire régresser au niveau social, mais progresser au contraire. Parce que là, je vois qu'on laisse aller les choses et puis bon, à un moment donné, on va aller vers le... toujours vers cette globalisation, cette espèce d'austérité ambiante, et puis, boum, on en met encore un petit coup sur le dos du travailleur, et on croit que ça va passer comme ça. Non, ça ne peut pas passer comme ça. C'est normal que... Moi, je suis soignant, je vous dirais, j'ai pas pu aller dans la rue. Hein. 40 euros par jour en moins sur le salaire, c'est même pas la peine. Je peux pas me permettre, je suis pas à ATP, à la SNCF ou autre. Donc, je soutiens, en mon âme et conscience, tous les gens qui sont dans la rue, qui bloquent tout. Tout ce qu'ils peuvent bloquer, mais je peux pas aller bloquer, ça c'est sûr, parce que nous, de toute façon, on est contraints, hein, il y a un service minimum, et puis voilà, c'est tout.
Merci Daniel. La voie référendaire, Madame Brasseau, c'est une solution finalement?
Solution extrême, mon mari est suisse, donc je suis de près ce qui se passe en Suisse. Oui, la voie référendaire est possible, mais attention, là, la voie référendaire signifie... éventuellement abroger une loi qui a été par ailleurs approuvée.
Tandis
que très souvent par le Parlement. En Suisse, il y a aussi un droit d'initiative directe, c'est-à-dire on ne vote pas une proposition au Parlement, mais on vote directement sur quelque chose qui est introduit dans la loi ou même dans la Constitution. Mais là, il faut quand même une tradition que nos pays n'ont pas. Je ne crois pas non plus la France, mais sûrement pas l'Italie. Donc, la tradition référendaire chez nous, c'est sur des grandes questions de droit, pas sur des questions comme ça qui sont qui demanderaient après une fabrication du texte qui à mon avis est plus du fait d'un parlement. Je crois que le travailleur qui vient de parler et qui il a raison. Nous on est en train d'inégalités croissantes. Je suis pas convaincue que les inégalités croissantes, on peut les contraster avec une syndicalisation de lutte acharnée contre un pouvoir qui en plus est un pouvoir socialiste en place. Je pense que le dialogue social doit s'instaurer, mais qu'il faut aussi permettre au Parlement, à la classe dirigeante politique, de voter. Et de faire des choix.
Il faut laisser le Parlement jouer son rôle.
Moi, je pense qu'on a besoin de réformes profondes. Et je le disais, on n'arrive plus à protéger les travailleurs. La plupart des entreprises sont des auto-entreprises, des petites entreprises, des services, des secteurs dans lesquels le travailleur dépend totalement de son employeur. Donc, c'est l'État qui doit prendre plus la relève. Et doit commencer à définir des règles qui valent pour tout le monde, qui soient inscrites dans la loi. Sur ça, effectivement, on pourrait imaginer une plus forte participation des travailleurs, aussi à travers les syndicats. On pourrait même imaginer des référendums, mais sur une base dans laquelle on se dit que maintenant, ça doit être au niveau de l'État qu'on garantit les tutelles et on doit laisser plus de flexibilité au niveau de l'entreprise. Parce que c'est impossible d'imaginer une lutte entre trois travailleurs d'une petite boîte contre leur patron. En réalité, ils sont du côté du patron parce qu'ils défendent leur travail, leur emploi. Et donc, c'est changer profondément le marché du travail. Ce n'est plus les grandes usines. Moi, je viens de Turin, on avait des usines pleines. Elles sont toutes vides maintenant. Mmh. Ils sont 4-5 000 et ils défendent avec l'entreprise leur travail, essentiellement.
Claude Rollin, le référendum, c'est une solution selon vous ?
Non, pour moi, pas du tout. Pourquoi ? Parce que le référendum, il appelle une réponse simple, qui ne tient pas compte de la complexité des choses. Un référendum, on y répond par oui ou par non.
Les processus... Souvent, on répond, il faut bien le reconnaître, un petit peu à côté de la question.
Oui.
Hein ?
En plus, souvent.
Qui déjà est manipulé.
Mais, je n'irai pas jusque-là, mais on a du mal à répondre
voir,
bien à
la question. Les processus de concertation sociale, de dialogue social, doivent porter sur les matières du travail, sur les matières de protection sociale. Qui connaît le mieux ces réalités-là ? Eh bien, ce sont les employeurs, les chefs d'entreprise et les travailleurs salariés avec leurs représentants.
Oui, mais...
Et donc, c'est à partir de ça qu'on peut produire une intelligence supérieure. Mais il y a une condition, c'est qu'il faut que le politique, c'est-à-dire les gouvernements, reconnaissent cela. Et quand il y a des accords qui sortent de la concertation sociale, il faut que le politique s'engage à traduire
là,
en termes de législation.
C'était la réflexion de Daniel. Est-ce que finalement, le politique, une fois qu'il constate, certes, il y a eu accord entre le patronat et les syndicats, mais il constate qu'il y a une opposition majoritaire dans le pays à cet accord, est-ce que ce n'est pas son rôle d'aller dire bah, on consulte effectivement les gens, le peuple ?
Je pense que la consultation référendaire ne va pas suffire. Et je suis convaincu, on fait cela demain en France, vous aurez un résultat tout à fait catastrophique, c'est-à-dire on aura une simplification et une politisation négative des enjeux qui me paraît être contre-productif. Le processus de concertation est un processus assez long, assez difficile, où il faut de la médiation et le rôle d'un gouvernement où le rôle de médiateur dans des conflits d'entreprise, par exemple, est un rôle hyper important. C'est comme ça qu'on arrive à produire justement des propositions, des accords qui sont solides.
Mais à la fin, le Parlement doit quand même avoir le droit de décider. Hein.
Monsieur Calvet-Chambon.
Oui, alors moi, je suis tout à fait allergique de façon générale à cette arme du populisme qui est le mépris et la dépréciation de la démocratie représentative à la grande gloire de la démocratie directe. C'est une façon vraiment de bousiller la démocratie. Donc, par conséquent, les référendums, très peu et pour des choses cadres. Je veux dire, en Espagne, on a eu deux. Un pour notre constitution et l'autre pour entrer ou sortir de l'OTAN. Voilà. Mais ça, une explication, en étant tout à fait d'accord avec ce qu'a dit M. Rollin. Écoutez, le marché du travail est maintenant plus que jamais, peut-être moins qu'au futur, comme les lois d'éducation. C'est une dynamique. Ça change continuellement. Il faut s'adapter. Je sais que c'est difficile parce qu'il y a toujours des perdants à court terme. Il faut s'adapter. Alors, on va faire un référendum sur une nouvelle voie du travail tous les ans ou chaque fois qu'il y a... Non, on ne peut pas travailler comme ça. Il y a des responsabilités qui sont dues au gouvernement, qui sont aux élus, les véritables, les plus importants représentants de la société civile, quoi qu'on en dise. Ce n'est pas 1,5 million de gens sur 350 qui ont signé une initiative parlementaire. Ce sont les parlementaires qui se soumettent à des voix. Donc, ce sont les premiers représentants. Et ils ont leur rôle. Alors, ceci dit, je suis très heureux. Je dois dire un mot parce que c'est un de mes axes de travail ici au Parlement et dans le groupe ALDE en particulier, où je veux enlever l'image de qu'on ne s'occuperait que de business, etc. Et la grogne en France et la fronde. Écoutez, j'ai fait mai 68, j'étais à Toulouse, donc ça vient de l'époque des Trois Mousquetaires, et ça, bon, y a pas de problème, ou d'Astérix même, donc il n'y a pas de problème, c'est très bien. Mais il y a une chose où ils ont raison, eux, comme partout ailleurs en Europe, on est en train de, à demi sortir de cette crise, avec une dynamique inégalitaire absolument intenable. Et intenable même d'un point de vue de théorie économique, parce qu'on est en train de la bousiller de la croissance. Et alors là, je suis forcé. Alors là, je suis tout à fait d'accord avec madame.
Par les dynamiques inégalitaires pour les salariés, on est d'accord.
Pas
seulement pour les salariés. Les petits commerçants, les autonomes, la classe moyenne, les pauvres, la pauvreté qui augmente. Non, c'est une dynamique inégalitaire parce que ça se mesure avec l'indice de Gini ou de Palma. Et j'ai demandé pas plus tard qu'aujourd'hui, à un commissaire, dont je ne dirai pas le nom, qui mette ça dans le semestre européen, qu'il faut surveiller parce que ça bousille tout. Alors là, les gens ont tout le droit d'être fâchés. Et ça ne va pas s'arranger avec le marché du travail seulement. Le marché du travail va essayer d'adapter aux nouvelles réalités. Et je sais que c'est très dur pour ceux qui viennent de la culture. Moi, j'ai travaillé dans des chantiers navals de grands bateaux. Alors vous voyez, c'est très dur, mais c'est vrai, les choses changent et là, il y a une transition à assurer. Et il faut l'assurer avec la solidarité envers les perdants. Mais les inégalités, ça va se changer avec une politique économique qui va promouvoir la flexibilité, sans doute.
19h45, le téléphone sonne Europe en direct du Parlement européen à Strasbourg, au 01 45 24 7000. Patrice, vous nous appelez de la Meuse. Bonsoir, on vous écoute, Patrice.
Oui, bonsoir. J'aimerais savoir si, dans les autres pays européens, le patronat a la même attitude qu'en France. Est-ce qu'il est plus puissant qu'ici, ou moins puissant, ou est-ce qu'il est plus conciliant? Le constat qu'on peut faire, c'est qu'on crache beaucoup actuellement sur les syndicats, ça devient une mode. Il ne faut quand même pas oublier qu'ils défendent des acquis sociaux depuis longtemps, depuis 36 et peut-être même avant. Et donc, on ne peut quand même pas leur reprocher de vouloir défendre les acquis sociaux. Je crois que c'est aussi une erreur de dissocier syndicalisme et conscience politique. Il est tout à fait naturel. La politique, c'est quelque chose de noble. Je vois pourquoi on doit dissocier les deux. Et il est tout à fait naturel que qu'on veuille garder des avantages acquis. Il est quand même normal qu'en 2016, on réclame plus de meilleures choses pour les ouvriers, les employés, etc., qu'en 1910. Donc il n'y a pas à reculer par rapport à ça. Maintenant, c'est vrai qu'on peut regretter aussi qu'un manque de syndicalisation, il ne faut quand même pas oublier non plus que se syndiquer, ça permet aussi de déduire de ses impôts. Et donc, on peut souhaiter que les gens se syndiquent plus au lieu de râler sans arrêt, critiquer les syndicats, qu'ils s'engagent, et puis parce qu'il y a le choix dans les syndicats aussi.
Merci Patrice, Mercedes Bresso vous répond en Italie. Comment alors, est le patronat italien? Et premièrement, en Espagne, parce que c'est quand même les deux pays qui ont, qui ont le plus réformé, hein, on va en reparler, le Job Act et puis la réforme laborale en Espagne. Comment est le patronat en Italie? Alors, est-ce que le numéro un du patronat traite le plus grand syndicaliste de terroriste?
Non, disons, l'Italie avait une grande tradition de concertation sociale, comme je pense en Belgique, mais comme en France aussi.
La tradition de la démocratie chrétienne, avec le PC.
Oui, ça venait de ça, mais c'était lié aussi au fait que nous aussi, on venait d'une dictature, donc on a eu une longue période dans laquelle on a essayé de faire travailler ensemble les patrons et les ouvriers. C'était aussi la période de la grande croissance dans laquelle, disons, le gâteau augmentait. On avait au moins l'illusion de pouvoir le partager un peu mieux. Je crois que le problème n'est pas, en tout cas, le droit des travailleurs à défendre leur acquis. Ça, c'est évident que c'est un droit. Le problème du patronat, c'est que en Italie, le respect formel existe parce que le syndicat des patrons représente les grandes entreprises qui sont une absolue minorité en Italie. Le problème reste, et ce que nous avons affronté avec le Job Act, je disais avec beaucoup de problèmes et de disputes, mais on affrontait le problème d'un groupe de travailleurs dans lequel on avait les travailleurs à temps indéterminé qui étaient déjà employés, qui avaient un très bon niveau de protection, il n'y a jamais un excessif niveau, il y a un très bon niveau de protection. Et tous les nouveaux, les jeunes, mais ceux qui s'employaient maintenant, qui n'avaient aucune protection parce qu'ils étaient employés seulement à temps déterminé pour éviter l'excès, ce qu'on considérait l'excès de protection, surtout au moment du licenciement. Même pour le licenciement économique, quand l'entreprise avait besoin, une petite entreprise avait besoin de licencier des personnes, elle ne pouvait pas le faire. Alors, elle n'embauchait plus. Et notre problème était d'avoir un système de protection à tutelle croissante, mais on a un système dans lequel on assiste jour par jour à l'augmentation des travailleurs à temps déterminé. Alors, on a peut-être réduit un tout petit peu les droits de ceux qui étaient déjà là, mais on a augmenté les droits de ceux qui rentrent.
Comment le patronat italien gère aujourd'hui les crises sociales? Comment le patronat italien gère le Job Act? Et après, on verra avec le patronat espagnol.
Je crois qu'il, pour le moment, il le gère plutôt bien, dans le sens qu'il a repris embaucher à temps indéterminé, aussi parce qu'on a modifié son intérêt. Maintenant, il paye plus un travailleur à temps déterminé qu'un à temps indéterminé. Et donc, il préfère les embaucher. Il a même une aide au début. Cela dit, en ce moment, le patronat italien se rend compte que le problème de l'Italie, c'est retrouver une forte compétitivité. Et ça, je crois, les travailleurs le connaissent aussi. Donc, je pense que relancer, après avoir eu une loi qui a flexibilisé un peu le marché du travail, relancer le dialogue social, ce serait quand même important. Mais quand on dit dialogue social, on ne peut plus dire les grands patrons et les ouvriers des grandes usines. Il faut parler de tous les autres qui sont la réalité plus grande qu'on a. Et donc, c'est là qu'il faut relancer. Et c'est un dialogue plus complexe sur lequel, je pense, il faut de la créativité de la part des syndicats et de la part aussi des patrons.
Monsieur Calvé-Chalbon, en Espagne, le patronat est comme en France, difficile dans la négociation
Alors. Je dirais que pas du tout. C'est-à-dire, une expression comme celle du MEDEF, de dire c'est un syndicat terroriste, ça ne s'opposerait jamais. Au contraire, les patrons espagnols, ou le patronat, la COE comme ça s'appelle, ou la CEPIME pour les petites et moyennes entreprises, reconnaissent toujours, et ouvertement, le rôle absolument constructif et stabilisateur qu'ont eu les syndicats en Espagne. Il y a toujours des grèves, il y a toujours des contentieux, etc. Mais non. Et il n'est pas rare d'ailleurs qu'ils se mettent souvent de mèche avec les syndicats contre le gouvernement. Ils sont plutôt conservateurs quant à conserver ce qu'ils ont. Ils peuvent avoir une tendance.
En même temps, un patronat conservateur, c'est presque un dénominateur commun, non? Qu'on peut trouver dans tous les pays.
Dans ce sens, non, mais ce qu'il y a actuellement de plus conservateur dans certains pays, je ne veux en citer aucun, ce sont les syndicats. Parce qu'ils veulent. Ils ont des difficultés à accepter la dynamique et la modernisation et ils veulent revenir à.
Monsieur Rollin n'a pas l'air tout à fait d'accord avec vous.
Certains syndicats. Certains syndicats. Et alors là, je voudrais. Donc, pour le patronat espagnol, je dois dire. Et ils rendent hommage. Par exemple, pour la cause de crise et de l'austérité, le gouvernement économique espagnol a voulu, à un certain moment, a voulu que les coûts salariaux soient contrôlés. Et il a fallu convaincre aussi les patrons parce qu'ils préféraient avoir la paix sociale, et etc. Donc, non, et même, moi, je défends dans mon programme quelque chose qui s'appelle le contrat unique indéfini, qui ressemble un petit peu, et je vais précisément dans la section emploi d'Aldé voir l'exemple, qui ressemble un petit peu à ce qui s'est fait en Italie, et les syndicats donc sont tout de suite rebiffés, et alors le patronat a dit, non, on ne veut même pas en parler si ça va créer des problèmes. Donc vous voyez, non, là vraiment il y a une entente surtout très institutionnelle. Ensuite, nous avons la représentation des PME, parce que ce qui marche beaucoup en Espagne, maintenant, ça commence à aller un peu plus vers les entreprises, mais ce sont ce qu'on appelle les accords de province. Et alors, ce que les syndicats, la coupole provinciale des syndicats négocie avec la coupole provinciale du patronat, c'est immédiatement... Ça permise à tout le monde et par conséquent, s'ils décident qu'à Valence, les grandes entreprises vendent leur côté, mais ce qui est, par exemple, je ne sais pas, les postes ou les taxis, etc., ça va augmenter 2%, ça affecte immédiatement tout le monde. Donc voilà. Et maintenant, il y a une chose que je veux dire. Franchement, à ce monsieur qui a parlé de le 36, il ne faut pas exagérer, on ne va jamais retourner en 36. Mais on est malhonnête, et il y a eu beaucoup de malhonnêteté chez les politiciens dans leur campagne électorale, en faisant croire aux personnes que les choses reviendraient comme avant. Or, ce n'est plus vrai.
On retourne au standard, 01 45 24 7000 sur France Inter. Thérèse, vous nous appelez, oui. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes. On vous écoute, Thérèse.
Voilà, j'ai vu que le patronat français a délocalisé en masse le travail. Je voudrais savoir si les autres en ont fait de même dans cette même proportion, parce qu'on ne peut pas faire vraiment confiance au patronat, ils s'en fichent de la France, des Français, etc. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci Thérèse. Claude Rollin vous répond.
Oui, donc on doit constater quand même qu'au niveau des entreprises et du patronat, on a une évolution vers une financiarisation croissante des entreprises, c'est-à-dire d'avoir des entrepreneurs
Thérèse parlait de la délocalisation,
qui sont de moins en moins des chefs d'entreprise attachés à leur sol, au terroir et aux gens, et donc les délocalisations sont plus faciles en la matière. Mais je voudrais revenir sur un élément et sur une formule par rapport à la concertation sociale, au patronat, au syndicat. Je pense que la concertation sociale, c'est comme le tango. Il faut être à deux pour pouvoir le danser. C'est-à-dire quand une des deux parties ne veut pas le danser, il n'est pas possible de le faire.
Sûr.
Et donc, la faute, en quelque sorte, quand ça ne fonctionne pas, elle est liée aux deux parties. Un élément aussi, c'est sur les évolutions. Je pense que les organisations syndicales, les travailleurs, quand on leur fait confiance, sont prêtes à s'adapter et à faire des mutations et des évolutions. Mais il ne faut pas oublier un élément, c'est que pour pouvoir faire des mutations et des évolutions, il faut aussi avoir une sécurisation. C'est ce qu'on appelle la sécurisation des parcours professionnels. C'est un élément essentiel. Ouais. On doit demander, les entreprises ont raison de vouloir de la flexibilité, de la prévisibilité, mais les travailleurs ont besoin aussi d'une flexibilité qui correspond à leur vie et d'une sécurité pour se programmer dans leur espoir et dans la construction de leur vie et de leur famille.
Alors, sur Internet, beaucoup de mails, et notamment ce mail de Benoît, il nous explique qu'en Grande-Bretagne, les salariés sont réunis en Assemblée Générale, ils votent à bulletin secret et non pas à main levée. Pourquoi ne pas introduire cette règle en France ? Ouais. Chacun voterait en fonction de ses convictions et non par rapport à la vie majoritaire.
Chez nous, on vote...
Alors, en Italie, secret. Madame Bresson.
Oui, chez nous aussi.
Dans les entreprises, les accords sont votés à bulletin secret.
Ouais. Je peux dire une chose sur la délocalisation, parce que c'est vrai, c'est arrivé aussi en Italie, je crois que c'est arrivé dans beaucoup de pays européens. La question c'est, on ne peut pas empêcher une entreprise de se localiser ailleurs. Donc, il faut revenir au fait qu'on doit créer des conditions du marché du travail qui soient plus flexibles pour permettre le retour des entreprises. Elles commencent à revenir, mais il faut quand même les attirer à revenir. Et il faut, je le disais, ce n'est pas qu'il faut diminuer les protections, mais il faut savoir les déplacer sur un autre type de loi, sur un axe plus public, donc plus de garanties à travers des systèmes sociaux que tout le monde contribuera à payer, et moins coûts directs, de limitations directes sur les entreprises, parce que sinon, on ne peut pas les... Moi, je suis préoccupée de les voir revenir, de les aider à revenir, naturellement, avec, bien sûr, le respect des travailleurs, mais avec la flexibilité dont elles ont besoin. Sinon, elles ne reviendront pas. Et alors, le problème, c'est qu'on peut avoir toutes les tutelles qu'on veut, mais si on n'a pas le travail, on a les chômeurs et on a une tension sociale terrible.
Alors, une question plus politique sur Internet, pour terminer, elle est de Yannick, là aussi, les de Saint-Aignan. Y a-t-il un 49-3 dans les autres pays, dans vos pays respectifs? Est-ce qu'il y a un 49-3? Claude Rollin, on commence par vous.
La Belgique, on n'a pas un 49-3, mais il y a des systèmes qui peuvent y ressembler quand même, qu'on appelle des lois-programmes ou des systèmes où on vote la confiance. Donc ça permet de passer en force. Ceci étant dit, c'est toujours un échec. Et comme on a une tradition de concertation, généralement, les gouvernements évitent ce type de méthode. Mais dans l'histoire, on a quand même eu quelques exemples.
Madame Bressot, il y a un 49-3.
Oui, on a le vote de confiance, ça rassemble, mais disons, ça met plus en danger le gouvernement.
Est-ce que Matteo Renzi, pour le Job Act, s'est passé par un 49-3 italien?
Oui, pour un vote de confiance. Le vote de confiance fait tomber tous les amendements, donc le texte est voté tel qu'il est à ce moment-là élaboré, donc avec les modifications déjà approuvées, mais sans aucune autre. Et s'il ne passe pas, le gouvernement doit démissionner. Donc, il met à risque le gouvernement. Chose que j'ai l'impression, en France, ce n'est pas le cas, non?
Alors, est-ce qu'en Espagne, il y a un 49-3?
Qu'est-ce que c'est qu'un 49-3?
C'est-à-dire, en fait, le gouvernement engage sa responsabilité sur le texte, et s'il n'est pas voté, il démissionne, il tombe.
Ce qu'avait fait le général de Gaulle. Il a dit si ça passe pas.
Alors en Espagne,
est-ce
que non. On termine rapidement.
Non, il n'y a pas de ce genre d'engagement. Ah. Et le gouvernement parfois peut faire par décret-loi qui après est révisé, mais il n'y a pas de possibilité pour le gouvernement de soumettre ça à condition. Ah. Il y a des motions de censure et il peut demander une motion de confiance, mais qui ne sera pas exactement sur une loi, ce sera sur un moment politique. Et il peut demander une motion de confiance qui, alors là oui, si elle n'est pas approuvée, de façon logique, le gouvernement démissionnerait. Ça, c'est jamais fait. Non.
Merci à tous les trois. On arrive au terme de cette émission. Merci à toutes les équipe technique ici pour la réalisation au Parlement européen à Strasbourg. À Paris, réalisation Eric Lenne, assisté pour vos questions et témoignages d'Amélie Stadelmann. Restez sur France Inter dans un instant, les dernières informations.